Bon, c'est le grand paradoxe de l'e-commerce moderne aujourd'hui. En fait, on intervient souvent sur le terrain pour auditer des infrastructures colossales, genre des architectures Shopify Plus ou WooCommerce ultra complexes, et la façade est vraiment d'une propreté clinique.
Ouais, le design est généralement impeccable, le maillage interne est sculpté au scalpel, les temps de chargement sont optimisés à la milliseconde près. On se retrouve face à des architectures qui semblent totalement invulnérables, en fait.
C'est exactement ça. Mais ensuite, on ouvre la porte de l'arrière-boutique pour vérifier un élément très précis, et là, c'est le chaos absolu. Le flux produit Merchant Center, ce fameux fichier d'export, ça ressemble souvent à un terrain vague.
Ah, il a été configuré à la hâte le jour de la mise en production du site, et puis complètement laissé à l'abandon, quoi.
Ouais, on y trouve des catégories par défaut complètement absurdes, des attributs manquants, des titres d'inventaire illisibles, et franchement, c'est l'angle mort massif de notre industrie.
Ouais, et l'ironie de la situation, c'est que ce fichier qui était historiquement relégué aux stagiaires ou aux gestionnaires de campagnes d'acquisition payante, il est discrètement devenu le cœur du réacteur.
Il s'agit plus du tout de faire du nettoyage de code XML pour satisfaire un idéal technique, tu vois. On parle d'une infrastructure qui dicte littéralement la survie organique d'un catalogue en ligne.
Ah, c'est clair. Ça impacte de front le chiffre d'affaires, la rentabilité des sessions et même la capacité d'un marchand à simplement exister dans les nouveaux écosystèmes de recherche.
Tout à fait. Bon, décortiquons un peu tout ça, car l'objectif de notre exploration aujourd'hui, c'est d'analyser cette bascule tectonique. Comment un simple fichier de flux technique est passé d'un statut d'outil secondaire pour Google Ads à celui d'infrastructure centrale et absolue du SEO e-commerce?
Et pour comprendre cette trajectoire, il faut vraiment d'abord analyser la mutation féroce de la ligne de front, c'est-à-dire l'interface même des moteurs de recherche.
Bon, les bons vieux liens bleus textuels.
Voilà. Toute l'industrie a bâti ses stratégies dessus depuis 20 ans, mais aujourd'hui, ils sont tout simplement en train de se faire cannibaliser.
Totalement. En fait, les données récentes illustrent une transformation radicale de l'interface utilisateur. J'ai regardé les études croisées de GrotteMemo et GrowByData, ou même les relevés de Brody Clark, et ça montre que les grilles produits.
Les fameux carrousels visuels.
C'est ça, ces immenses blocs de popular products ou produits populaires. Ça domine aujourd'hui entre 81% et 96% des pages de résultats e-commerce sur ordinateur.
Et ce chiffre grimpe encore sur mobile, hein. Ce qui est fascinant ici, c'est que la compétition s'est déplacée. C'est plus une simple fonctionnalité pour enrichir la page, c'est devenu l'expérience de recherche par défaut.
Plus de 80% des résultats, c'est énorme. Ça veut dire que l'espace physique accordé au texte classique est vraiment réduit à peau de chagrin.
Ah on le voit sur le terrain, l'apparition de ces grilles visuelles ampute le taux de clic des résultats organiques classiques d'environ 50%.
C'est violent. La moitié du trafic s'évapore instantanément parce que l'œil humain est irrémédiablement attiré par l'image, le prix barré, les petites étoiles. L'attention est totalement siphonnée. D'ailleurs, l'exemple de Backmarket est un cas d'école fascinant sur ce point.
Leur stratégie d'acquisition organique est un modèle du genre. Sur leur catégorie phare, les données montrent que Backmarket s'accapare 59% des apparitions dans ces fameuses grilles visuelles.
Ouais, il monopolise complètement l'espace graphique.
Exactement. Mais la statistique la plus révélatrice, c'est leur performance sur le SEO textuel classique pour ces mêmes requêtes. T'as une idée du chiffre?
Je sais qu'il est bas, mais à quel point?
Ils ne détiennent que 1,7% des positions du top 3.
1,7%, ah ouais la vache.
Ouais, ils ont volontairement déserté la guerre d'usure des liens bleus pour concentrer toute leur puissance de feu sur l'intégration des grilles visuelles. Et le détail technique majeur là-dedans, c'est que 97% de ces apparitions en grille sont alimentées par les données de leur page catégorie et non pas par des fiches produits isolées.
C'est incroyable. Mais c'est pas un pari extrêmement risqué, ça? Abandonner la bataille du SEO textuel classique pour tout miser sur des blocs visuels. On se met à la merci d'une mise à jour de Google du jour au lendemain, non? Si Google décide de réduire la taille des grilles, Backmarket perd son monopole.
Le vrai risque, ce serait de s'accrocher à un format en déclin, en fait. La transition vers des interfaces visuelles, c'est pas un test temporaire de Google, c'est une vraie adaptation au comportement d'achat. Le pari de Backmarket s'appuie sur une compréhension super profonde de l'intention de l'utilisateur.
C'est pas faux.
Quand quelqu'un cherche un smartphone reconditionné, il veut pas lire un bloc de texte de 1000 mots optimisé pour les moteurs de recherche.
C'est clair, il veut voir le modèle, l'état de la batterie, la garantie, le prix, tout ça immédiatement.
Voilà. S'entêter à optimiser le texte, c'est lutter contre la nature même de la requête.
Tu sais, c'est l'analogie que j'utilise souvent, en fait. C'est comme s'acharner à peindre et repeindre la plus belle enseigne en bois pour sa petite boutique dans une ruelle sombre, en espérant attirer le client juste grâce au texte de l'enseigne.
Très bonne image, ouais.
Pendant ce temps-là, tous les acheteurs sont agglutinés devant l'immense vitrine lumineuse et interactive de l'avenue principale juste à côté. Si on ignore cette vitrine, les fameuses grilles produits, on perd littéralement la moitié de la rue. On se bat pour des miettes de trafic, quoi.
Cette métaphore illustre parfaitement le problème d'allocation des ressources aujourd'hui. L'immense majorité des équipes marketing continuent d'investir massivement dans le polissage de leurs fameuses enseignes en bois, alors que la clé d'accès à cette vitrine lumineuse, c'est ni le contenu rédactionnel, ni l'autorité du domaine, de manière classique.
C'est la qualité et la structuration du flux produit.
Exactement.
Mais du coup, si Backmarket rafle 59% de sa visibilité visuelle, ça pose une question d'accès évidente. Historiquement, Merchant Center, c'était un environnement strictement pay-to-play.
Oui, il fallait brancher Google Ads.
C'est ça, il fallait connecter la carte bleue pour y figurer. Alors, comment ils ont fait pour pirater cette visibilité de façon purement organique ?
La mutation technologique s'est opérée avec le déploiement de Merchant Center Next. L'écosystème s'est complètement ouvert. Il permet désormais d'apparaître dans ces grilles gratuitement, sans aucun investissement publicitaire.
Ah, c'est un canal d'acquisition organique massif qui a été débloqué en fait.
Ouais, totalement. Mais attention, cette ouverture n'est que la première étape d'une révolution beaucoup plus profonde. Le flux produit est devenu la seule source de vérité lisible pour les nouveaux agents d'achat basés sur l'intelligence artificielle.
Oula, les agents IA. On les annonce partout comme les remplaçants des moteurs de recherche traditionnels. Mais techniquement parlant, comment ils interagissent avec ces catalogues données ?
Un agent IA comme celui d'OpenAI, il ne va pas simplement crawler le code HTML d'une page catégorie Shopify comme le ferait le vieux Googlebot, si.
Non, pas du tout. Le scrapping classique de page web, c'est beaucoup trop incertain pour une IA qui doit prendre des décisions d'achat ou formuler des recommandations fiables. Les LLMs, les grands modèles de langage, ils ont une propension naturelle à halluciner, tu vois.
Ouais, c'est vrai. S'ils tentent de deviner un prix ou un stock en analysant la structure visuelle, ça peut vite partir en vrille.
Le risque d'erreur est immense. C'est pour ça que ces géants technologiques ont développé des protocoles de communication directs. Google utilise l'UCP, l'Universal Commerce Protocol, et OpenAI a mis en place l'Agent Commerce Protocol. Donc on parle plus du tout de SEO au sens optimisation pour les moteurs de recherche, mais d'AIO, d'optimisation pour les intelligences artificielles, via des API dédiées. C'est un changement de paradigme total.
Complètement. Le flux, c'est plus un vieux export CSV statique mis à jour vaguement la nuit. C'est une base de données respirante, une API vivante, soumise à des exigences drastiques. Par exemple, la documentation d'OpenAI exige des mises à jour toutes les 15 minutes.
Attends, toutes les 15 minutes ?
Ouais. Et c'est pas tout. Ils imposent un standard de sécurité cryptographique hyper sévère, comme le TLS 1.2 minimum.
TLS 1.2 ? On rentre dans des concepts de cybersécurité pure, là. Pourquoi une IA conversationnelle exigerait un chiffrement cryptographique pour lire un simple catalogue de t-shirts ou de chaussures ? Quel est le rapport avec la visibilité des produits ?
C'est une question de confiance absolue dans l'intégrité de la donnée. L'agent commerce protocole d'OpenAI n'est pas conçu pour juste faire du lèche-vitrine. Il est conçu pour, à terme, exécuter des transactions à la place de l'utilisateur.
Ah ouais, carrément, acheter à notre place ?
Voilà. Donc, si l'API n'est pas sécurisée par des protocoles cryptographiques stricts, le pipeline de données est super vulnérable aux attaques de type data poisoning.
Le fameux empoisonnement des données.
C'est ça. Un acteur malveillant pourrait intercepter le flux et modifier les prix ou les caractéristiques techniques avant que l'IA ne les ingère. Sans TLS 1.2, OpenAI refuse catégoriquement d'établir la connexion. Le marchand est tout bonnement rayé de la carte pour l'IA.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Car au-delà de la sécurité, il y a la structuration de la donnée elle-même. Google, via son protocole UCP, devient extrêmement pointilleux. Il ne se contente plus du triptyque classique titre, image, prix.
Ah non, fini ça.
Il exige des attributs en profondeur, genre la compatibilité des accessoires ou des réponses préformatées aux questions fréquentes. Si je cherche veste imperméable homme légère moins de 100 euros et que ces attributs hyper granulaires ne sont pas balisés dans le flux du marchand, est-ce que l'IA va faire l'effort de déduire que la veste est légère en analysant la description marketing du site ?
Absolument pas. L'agent IA ne déduit rien de ce qui n'est pas formellement structuré. Si la donnée légère ou imperméable manque dans l'architecture du flux, le produit n'existe pas dans le contexte de cette requête. Point barre.
C'est fou.
Le système recommandera instantanément le produit du concurrent qui, lui, a fait l'effort de cartographier ses attributs. C'est vraiment une logique d'exclusion binaire.
Donc l'effort technique demandé est colossal, mais la récompense financière est vraiment au rendez-vous. Et c'est peut-être le chiffre le plus marquant de cette analyse. L'impact de ces nouvelles habitudes de recherche orientées flux et grille, il est complètement mesurable.
Oh que oui!
Une session organique typée shopping génère aujourd'hui en moyenne 5,38 $ de valeur. Si on compare ça à une session issue d'une recherche organique classique sur un lien textuel, bah ça génère seulement 1,78 $.
Ouais, c'est un ratio énorme.
C'est un ratio de 1 pour 3. Le trafic issu du flux est 3 fois plus rentable. Comment tu expliques un tel écart ?
Bah, cet écart phénoménal s'explique par la psychologie même de l'utilisateur. Le lien textuel correspond très souvent à une phase exploratoire. L'internaute cherche de l'information, compare des concepts, lit des avis. C'est du haut tunnel. La grille produit, en revanche, intercepte l'utilisateur au bas de l'entonnoir de conversion. L'image de l'article, son prix exact et sa disponibilité agissent comme un déclencheur transactionnel immédiat. Un clic sur ce format indique que la décision d'achat est imminente.
Ouais, c'est logique. Mais quand on voit un tel impact financier, le décalage avec la réalité du terrain est carrément sidérant. On pourrait croire que les e-commerçants déploient des équipes entières pour chouchouter ces flux. Et pourtant,
c'est tout le contraire.
Sur la quarantaine d'audits d'infrastructures qu'on a menées ou analysées récemment, les résultats font vraiment froid dans le dos. 91% des flux examinés n'atteignent même pas les seuils de qualité minimaux exigés par Google AdSense.
C'est le grand paradoxe qu'on évoquait au début. L'attention de l'industrie SEO est focalisée sur l'acquisition de backlinks ou la rédaction de cocons sémantiques interminables, pendant que l'infrastructure qui génère un trafic 3 fois plus rentable est laissée en friche. La concurrence réelle sur l'optimisation des flux Merchant Center est étonnamment faible.
Bon, plongeons un peu dans l'autopsie de ces 91% d'échecs. Quels sont les points de rupture ? On retrouve systématiquement 3 erreurs fatales lors de nos analyses sur terrain.
La première, et de loin la plus courante, c'est l'absence ou la corruption des fameux codes GTIN, les codes barres.
Ouais, on constate que 68% des flux analysés présentent des anomalies critiques à ce niveau. 68%. On sait tous ce qu'est un code barre dans la vraie vie, mais techniquement parlant, pourquoi autant de marchands l'ignorent ? Et surtout, quel est l'impact algorithmique de cette négligence ? C'est plus qu'un simple avertissement rouge dans la console, non ?
Ah, c'est bien plus que ça. Le GTI n'est pas un simple champ administratif pour faire plaisir à Google. C'est vraiment la clé de voûte du Knowledge Graph e-commerce. L'algorithme utilise ce code pour réaliser un clustering.
Un clustering, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire regrouper de façon univoque des produits identiques vendus par différents marchands. Si un marchand vend un modèle spécifique d'ordinateur portable, mais qu'il ne fournit pas le GTIN, Google ne prendra pas le risque algorithmique d'associer ce produit à la fiche produit globale de cet ordinateur.
D'accord. Et la conséquence directe de ça ?
La conséquence immédiate, c'est que le marchand est purement et simplement exclu des modules de comparaison de prix et des grilles populaires associées à ce modèle précis. La donnée montre d'ailleurs qu'un produit doté d'un GTIN valide capte 20% de clics supplémentaires, juste parce qu'il accède à ces zones de forte visibilité comparative.
20% de clics en plus, c'est un sacrifice de trafic complètement incompréhensible.
Totalement.
Et ça nous amène à la deuxième erreur fatale, qui illustre parfaitement le gouffre entre les contraintes techniques de l'entrepôt et le marketing digital, les titres hors sol.
Ah ! Le fameux fléau des titres autogénérés par des plateformes comme Shopify.
C'est exactement ça. Le marchand entre son produit dans le CMS avec une pure logique de magasinier. Il saisit un truc du genre « veste homme noir M ». C'est très bien pour retrouver un carton dans un rayon ou faire son inventaire. Et Shopify, par défaut, expédie ce titre exact dans le flux Merchant Center.
Sauf que l'acheteur, devant son écran, ne formule jamais ce type de requête.
Jamais. L'intention de recherche de l'acheteur est descriptive et hyper guidée par un besoin spécifique. L'utilisateur va plutôt taper « veste de running imperméable homme noir ultra légère ». Le titre de back-office « veste homme noir M » ne contient absolument aucun des signaux lexicaux que l'algorithme ou l'IA recherche pour faire correspondre le produit à l'intention de l'utilisateur.
Il faut impérativement séparer la gestion des stocks de l'optimisation des flux. C'est deux métiers différents.
Du coup, comment on doit restructurer ces titres concrètement pour capter cette intention de longue traîne extrêmement qualifiée ?
La création de formules de titres conditionnelles est impérative. Selon la taxonomie du catalogue, la structure doit varier. Par exemple, pour du prêt-à-porter, la concaténation idéale, c'est souvent marque plus sexe, plus type de produit, plus attribut différenciant, comme la matière ou le cas d'usage, plus couleur et taille.
Donc le veste homme noir devient quoi ?
Ça doit devenir un truc comme Salomon, veste de running homme, imperméable, coque légère, noire, taille M. L'intégration des modificateurs comme imperméable ou coque légère injecte la donnée granulaire que les protocoles IA recherchent désespérément.
C'est ouf, parce qu'au final, c'est une simple réorganisation de chaînes de caractères qui change drastiquement la portée du produit.
Exactement.
Mais il y a un troisième point de rupture qu'on voit tout le temps sur le terrain. Et c'est peut-être le plus redoutable car il entraîne des sanctions invisibles et automatiques. La désynchronisation.
Ah oui, la hantise BI commerçant.
On observe constamment des flux qui annoncent un produit à 49 € alors que la page de destination l'affiche à 54 € à cause d'une promo qui vient d'expirer, par exemple. J'imagine que l'affichaire sur la page web et le fichier de flux doivent correspondre, mais on oublie souvent la couche invisible, le fameux balisage schéma.org. C'est souvent l'axe à casse, non ?
Ouais, la mécanique de vérification de Google repose sur une cohérence tripartite très stricte. Il y a le flux Merchant Center poussé par API, il y a le rendu visuel de la page HTML et effectivement, il y a le balisage de données structurées schéma.org enfoui dans le code source.
Et Google vérifie les trois en même temps.
Absolument. Il opère des micro-crawls permanents pour comparer ces trois sources. S'il détecte la moindre friction, ne serait-ce qu'une différence de quelques centimes entre le JSON du flux et le balisage schéma mis en cache sur la page, la sanction est algorithmique et immédiate. Le produit est rejeté.
Ah ouais, le fameux « product disapproved » qui clignote en rouge dans la console sans crier gare.
Le vrai problème là-dedans, c'est ce qu'on appelle la « race condition ». C'est ce décalage temporel entre la mise à jour d'un cache de page web et le ping d'une API. Sur un catalogue qui subit des rotations de prix dynamiques ou des variations de stock intensives, cette désynchronisation peut désactiver des centaines de produits les plus rentables d'un coup.
Sans même qu'une alerte humaine ne se déclenche immédiatement.
Exactement. Une synchronisation en temps réel via l'API, couplée à un monitoring hyper agressif des rejets, c'est aujourd'hui la seule parade viable.
L'exigence technique a vraiment atteint un niveau chirurgical, quoi. On est très, très loin du petit fichier qu'on bidouillait sur Excel le vendredi après-midi.
Ça, c'est sûr.
Si on devait dresser un plan de bataille immédiat pour ceux qui gèrent ces plateformes au quotidien, les actions à très haut rendement se dessinent assez clairement. 1. Le nettoyage ultra approfondi des identifiants uniques, les fameux GTIN, pour débloquer la puissance du Knowledge Graph.
Ouais, c'est la base.
2. L'arrêt immédiat de l'export natif des titres d'inventaire, qu'on remplace par des règles de réécriture conditionnelles qui ciblent vraiment les attributs de recherche. Et 3. Le blindage absolu de la synchronisation tripartite, on-page, schéma et flux, en temps réel.
Ce triptyque, ça constitue vraiment la base de l'infrastructure moderne. Les entreprises qui maîtrisent ces trois piliers s'adjugent un avantage compétitif d'autant plus puissant qu'il est purement organique et extrêmement difficile à répliquer sans une discipline technique de fer.
C'est passionnant et en même temps, ça soulève une réflexion philosophique assez vertigineuse sur l'avenir même de notre métier. Si les agents d'achat d'OpenAI, de Google ou d'autres écosystèmes se nourrissent désormais exclusivement de ces attributs de flux structurés, ils se moquent éperdument de l'expérience utilisateur visuelle.
C'est le grand paradoxe.
L'IA, elle voit pas si la police de caractère est élégante ou si le bouton d'ajout au panier a la couleur parfaite pour convertir l'œil humain. Elle ingère juste des nœuds de données cryptographiques.
Ouais, et c'est là-dessus qu'il faut s'interroger. La fonction première de l'interface visuelle va progressivement se réduire. Je suis convaincu que la conception de site e-commerce consistera de moins en moins à persuader un acheteur humain avec un design émotionnel.
Mais beaucoup plus à structurer une architecture de données hyper dense.
Exactement. Une base de données capable de convaincre un agent robotisé de la pertinence technique d'un produit. L'optimisation pour l'algorithme d'achat va petit à petit supplanter l'optimisation pour l'œil humain.
Voilà une perspective qui bouscule franchement toutes les certitudes de l'industrie. Je veux dire, pourquoi investir des fortunes dans l'esthétique d'une boutique si le véritable client, l'agent IA qui fait les courses et compare les prix à la vitesse de la lumière, il se soucie que de la perfection d'un fichier de flux JSON bien sécurisé ?
C'est toute la question des prochaines années.
C'est sur cette observation et la bascule d'une ère du tout visuel vers une ère de la donnée structurée pure que s'achève notre analyse aujourd'hui. L'entretien de ces infrastructures invisibles n'est définitivement plus une corvée administrative. C'est l'essence même de la compétition moderne. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle plongée en profondeur.